7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, des questions sérieuses sur un sujet léger, la mode en Afrique. Demain à Paris démarre la Black Fashion Week. Bonjour Adama Paris.
Bonjour.
Vous avez fondé ce rendez-vous avec la créativité africaine il y a 7 ans maintenant pour la capitale française, mais la Black Fashion Week existe depuis près de 17 ans à Dakar, votre ville. Il y a aussi Montréal, il y a aussi Bahia au Brésil.
On a fait une fois à Prague.
Oui, en République tchèque. Et puis vous avez ouvert donc un espace à Paris, là, permanent, hein, qui rassemble des créateurs de votre choix dans le prolongement de la Fashion Week. Donc on appelle ça maintenant un concept store, hein, c'est un magasin où on peut retrouver le meilleur de la création africaine. Vous êtes sénégalaise et vous êtes l'une des créatrices les plus dynamiques du continent, avec une vision très large et une vision très business aussi, on en parlera. Un continent africain qui inspire le reste du monde avec son imaginaire, son sens des couleurs, son travail des matières. Mais alors pourquoi, avec tant de ressources, l'Afrique exporte si peu de vêtements? Comment sortir de la production confidentielle de l'atelier? Pourquoi si peu d'entrepreneurs aussi de la mode? On va en discuter avec vous, notre partenaire Marie-Jeanne Serbin-Thomas. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes la créatrice et la rédactrice en chef du magazine Brune. Karine Tano est également en ligne avec nous. Bonjour Karine Tano.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes à Abidjan, la fondatrice de la plateforme Etika, espace de créateurs, et puis aussi le fameux concept store multimarque qui est au pied du Novotel d'Abidjan et que tout le monde connaît. Et c'est pareil, quand on veut savoir ce qui se fait de mieux, il faut jeter un coup d'œil à son espace, à cet espace. Également avec nous au téléphone, Elie Kwam. Bonjour.
Bonjour à vous, bonjour, bonjour.
Créateur de mode et directeur artistique de la marque Elie Kwam Couture, et vous êtes également à Abidjan. Et puis on a une Benjamine dans le groupe aujourd'hui, Aminata Thior, bonjour.
Bonjour.
32 ans, chroniqueuse sur RFI, vous avez fondé le site Cetalma, qui est consacré à la beauté et aux cosmétiques en Afrique francophone, pas seulement pour les consommatrices d'ailleurs.
Mais aussi pour les professionnels.
Ouais. C'est et ça. Qui recense tout ce qui se fait
sur le continent, en Afrique francophone, en matière de business, d'entrepreneuriat, ça c'est pour les professionnels, et pour les consommatrices, tout ce qui est information sur l'entretien de leurs cheveux, l'entretien de leur corps.
C'est ça, vous êtes une start-upeuse et dans l'équipe, ça travaille aux quatre coins du continent.
C'est ça, on est à Dakar, à Abidjan, à Douala et à Cotonou.
Et puis, quant à vous, les voisins et les voisines, vous avez la parole sur le sujet. Pourquoi la mode, la créativité africaine s'exporte si peu? Appelez-nous dès maintenant. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis les messages d'un voisin, Lubumbashi, qui nous dit: dire que les modes africaines s'exportent, c'est grave. Mais non, mais justement, on pose la question. On n'a pas dit qu'elles s'exportaient. Enfin, Adam à Paris va nous dire que si, ça commence, ça marche bien, mais quand même. Et puis, Fouba, à Niamey, au Niger, nous dit: moi, j'ai l'impression que l'Africain a honte de son histoire vestimentaire. Vrai ou pas vrai, Adama Paris?
Non.
Encore vrai?
Non, encore faux.
Non, mais on regarde Instagram, bien sûr que non, on va dire que c'est faux. Mais
non,
dans
non,
la
je
rue...
pense réellement que c'est pas une honte. Non, 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 je pense réellement que on a les Africains comme les Antillais, on a un passé lourd de colonisation, de changement de mentalité. Quand même, les colons sont venus pour nous dire qu'on n'était pas assez bien. Et tout ça est le fruit de toutes ces années. Bon, maintenant, nos générations ont changé, mais c'est quand même quelque chose qui se prolonge. Donc, c'est pas pour rien qu'on se met des robes, des jupes et pas des pagnes.
Message d'un...
Il y a quand même un complexe. Hein.
Oui.
Il y a quand même un complexe.
Bah oui, mais qui est
rien. Oui, tout ce qui est fait en Afrique est plutôt synonyme de mauvaise qualité. Donc, ils préfèrent acheter justement les produits qui viennent de l'étranger, pensant que ce qui est fait en Afrique ou en Côte d'Ivoire n'est pas de bonne qualité. Donc ça, depuis 10 ans, on lutte, nous, justement. On fait beaucoup de sensibilisation pour ça.
Message d'un voisin, Ismaël, à Dakar. Écoutez.
Une mode dite africaine, il n'y en a pas, hein, puisque l'art est universel. Mode dite occidentale aussi, moi, je pense toujours qu'il n'y en a pas. Mais je pense que les êtres humains sont vraiment appelés à la créativité, quoi. Imaginer, créer, proposer, c'est ça vraiment l'art. Moi-même, je suis un artiste caché, inconnu, qui crée aussi des modèles, et donc je sais que mes modèles sont uniques au monde, ça c'est sûr. C'est unique au monde parce que quand je les crée, quand je m'habille, j'attire l'attention de tout le monde et les gens aiment, les gens apprécient. C'est ça aussi l'art.
Bon, il n'y a pas de création africaine alors, Eli Kwame ?
Alors, pour ma part, je pense qu'il y a un marché du textile et de la mode en Afrique, mais il n'y a pas de mode africaine parce que la mode, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de barrières. On ne parle pas de mode international, disons, on ne parle pas de mode française, on ne parle pas de mode américaine.
Je peux terminer.
Merci beaucoup, mesdames.
Il faut parler vrai, Eli.
Exactement. Il y a un acteur actif du continent. Mais mettre l'africaine sur la mode, c'est comme nous réduire à quelque chose. Nous sommes des défenseurs d'un département qui est international, qui est universel. C'est la mode. On ne va pas intervenir en tant que créateur ou pour la mode africaine. On va intervenir en tant que créateur, tout simplement. Et on va défendre un marché qui, lui, est africain. Donc moi, je suis contre le fait qu'on nous réduise en disant la mode africaine. Nous sommes des acteurs actifs d'un marché qui est, lui, en essor et qui est en Afrique. Après, c'est ma façon de voir parce que quand je vais en France ou quand je vais au Fashion Week, on ne me dit pas je suis à la mode française ou à la mode occidentale. On me dit je suis venu assister à un défilé. Et c'est pour moi tout son sens quand Adama, par exemple, fait la Black Fashion Week. Mmh. Parce qu'en faisant la Fashion Week, Adama met en avant des créateurs qui sont sur un marché et qui se battent pour défendre un marché. À partir du moment où ce marché-là est important, aussi gros soit-il, et visiblement petit soit-il, parce que c'est ce qu'on est, petit dans la vision des gens, quand Adama met en avant les créateurs du secteur actif mode, textile et design en Afrique, nous devenons des gens qui ont nous faisons du bruit. Et notre marché est considéré. Mais nous ne faisons pas de la mode africaine. Si on me donne un département asiatique, je crée des collections avec des influences asiatiques. Si on me donne de l'occidental avec le musée Grévin ou bien le palais de Tokyo, que sais-je, Louis XIV, je crée des collections pour les palais de Louis XIV.
Ouais.
Je ne suis pas seulement un créateur africain.
Oui. Karine Tano, allez-y, puis après on vous donne la parole au studio. Ouais.
Oui, parce que quand on parle de mode, il faut parler surtout de marché. Parce que Eli Kwame a parlé de marché, je crois que c'est le mot-clé, en fait, de cette histoire. Un marché africain, je dirais non, c'est un marché en général. Aux États-Unis, il y a un marché, en Europe, il y a un marché. Mais pour pouvoir justement exporter sur ces marchés-là, parce qu'on ne s'adresse pas uniquement aux femmes africaines ou aux femmes blacks, tout le monde achète de la mode ethnique.
Mais justement,
en fait.
je voulais interroger Adama Paris là-dessus, parce que quand même, il y a un incroyable engouement aujourd'hui pour une créativité issue du continent africain. C'est bien qu'elle a une identité forte, moi, en tant que consommatrice. Je vois bien que ce n'est quand même pas le même traitement des couleurs qu'une mode aux États-Unis, que ce n'est pas le même graphisme des motifs, que ce n'est pas le même traitement des matières naturelles. Ça n'a rien à voir avec une mode américaine, par exemple. Non.
D'accord avec ce qu'ils disent. Je suis d'accord avec une partie de ce que Elie dit, c'est qu'effectivement, lui, il peut se définir comme un créateur universel qui peut faire, c'est ce que j'entends dans son discours, qui peut faire une robe pour gala, pour Cannes, pour machin, et qui peut faire aussi une robe pour la première dame. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une mode. Bien évidemment qu'il y a des modes liés complètement à des continents et à des
Et c'est ce que vous voulez faire passer dans la Black Fashion Week.
Oui, entre autres. Bon, c'est un peu plus large, mais quand la question était s'il y a une mode africaine, bien évidemment qu'il y a une mode africaine parce que nos codes vestimentaires sont complètement différents avec ceux des Européens, comme il y a une mode italienne, comme il y a une mode londonienne. Et puis, moi, j'en suis très fière, mais j'entends bien qu'un créateur puisse dire je ne veux pas me mettre dans une case comme Elie, je veux être pouvoir faire n'importe quelle mode, mais il y a des créateurs qui revendiquent de faire une mode purement africaine ou une mode purement italienne avec les codes de ces cultures là
donc ça n'empêche pas les va-et-vient évidemment,
mais complètement, c'est l'ADN même de la mode, c'est de la créativité. On peut pas la cadrer, on peut pas la mettre dans une case. C'est pour
mais
ça que
est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, Adama Paris, de comprendre qu'est-ce qui séduit dans cette mode issue du continent africain? africain.
Mais bien évidemment.
Est-ce que vous êtes capable de dire aujourd'hui pourquoi il y a cet engouement ? Est-ce mais que parce c'est parce qu'on la rend plus visible ?
Non, elle a toujours été là, mais effectivement, elle est plus visible et plus accessible par vous, les médias, par Brune et par tous ces gens-là qui nous font découvrir et qui, ça n'existait pas avant. Finalement, on n'avait pas des magazines qui parlaient de nous par des gens pour nous et par nous.
Et puis l'Internet aussi.
L'Internet, mais il y a eu une recrudescence vraiment quand même d'afro-descendants qui ont pris leurs plumes, leurs photographes et qui sont venus par des gens comme vous. Et Internet a aidé pour...
Et puis des influenceuses, des stars, des Beyoncé, etc.
Internet a aidé pour... Mais effectivement, moi, je pense que... oui, il y a une mode africaine qui se décrit par des codes. Il y a en plus cette idée vraiment... du wax que c'est africain, que tous les Européens ont. Donc quand ils pensent à mode africaine, ils pensent à des choses colorées, même si c'est pas forcément, ça vient pas de chez nous, mais c'est quelque chose qui est empreint de... ils sont venus et l'emprunter, le mettre dans notre façon de nous habiller. Donc oui, moi, à la question si une mode africaine existe, effectivement.
Alors, on avance quand même. Vous-même, au départ, Adama Paris, vous étiez, puisqu'on parlait des marchés qui sont internationaux aujourd'hui, et de la nécessité pour la création africaine de s'exporter, vous-même au départ, est-ce que vous étiez perçue comme aujourd'hui, c'est-à-dire comme une entrepreneuse et pas seulement une créatrice?
Il faut demander ça à Marie-Jeanne qui me connaît depuis mes débuts, parce que je ne sais pas si elle s'en rappelle. Ma première parution, c'était chez Diva où elle était rédactrice en chef et j'étais toute jeune, je venais de démarrer, je voulais pousser tout le monde, faire les trucs. Et à l'époque, je faisais des trucs en jean et en cuir. J'essayais d'utiliser des trucs naturels. Oui, j'ai toujours été entrepris, mais je pense que elle est là et puis elle peut... Enfin, de toute façon, j'ai eu cette critique que j'ai eu beaucoup aussi. Parce qu'au début, je créais et les gens disaient « Ah ouais, mais c'est même pas une créatrice. Elle est très business. » Donc, même les créateurs eux-mêmes me voyaient pas.
Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Oui, juste pour revenir à ce qu'il disait Élie. Élie, je pense qu'il y a quelques erreurs. L'émotion ne doit pas nous faire dire n'importe quoi. La mode française existe, c'est un patrimoine, c'est déposé. La haute couture est d'abord française. Il y a des investissements qui sont faits par l'État français pour protéger la mode française. Donc dire que Saint-Laurent est chinois ou russe ou américain ou même sénégalais, c'est une aberration. La mode italienne existe, ça fait partie d'un patrimoine, d'une culture. Il y a une histoire, il y a des écrits, il y a énormément de choses dessus. Donc ce n'est pas parce que ça existe que ça doit dévaloriser la mode africaine. Pour en revenir à Adama, Adama est apparue dans le milieu de la mode sénégalaise comme une ovni, parce que d'abord elle l'ouvrait, en général elle disait beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui vient du secteur de la finance et qui apportait non seulement un look, qui aussi s'utilisait non pas comme mannequin, parce qu'elle n'a pas forcément la taille mannequin, mais elle a porté de nouvelles coiffures. Ça a été une des premières nappies du Sénégal. Elle a porté un maquillage, elle a porté une valorisation aussi de sa couleur noire. Donc tout ça, ça participait vraiment d'un personnage très très dynamique, et surtout elle osait prendre des positions un petit peu ambigu, pas ambigu, mais vraiment contre
le système. La question que je vous posais, en fait, Adama Paris, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes perçue vraiment comme une entrepreneuse?
Oui.
C'est une question
oui,
qu'il faudrait, il faudrait poser peut-être cette question-là aux banques. C'est-à-dire, c'est quoi vos relations avec les banques aujourd'hui? Parce que,
Non, non, mais je suis d'accord. Et moi, j'ai pas de problème de parler d'argent. Elle l'a bien dit. Sûr. J'ai jamais eu de problème de parler d'entreprendre ou d'argent. J'ai pas cette.
Cette timidité. Parce que, voilà, vous avez pas donc ouvert un espace de création. Vous avez maintenant ces
Oui, maintenant, on est.
Vous avez une chaîne de mode, vous avez une fédération. Alors, certains parlent d'un empire.
Mais maintenant,
toute proportion gardée, donc.
Oui, toute proportion gardée, parce que je suis très loin de Oprah, mon idole. Mais je suis quand même fière du chemin parcouru, et je suis fière de tout ce chemin que j'ai parcouru et de tous ces gens-là qui m'ont aidée, qui ont contribué. Oui, maintenant, oui, quand je vais dans des banques où les gens un peu sérieux, les présidents et les sociétés veulent et puis mettent un peu d'argent sur nos projets. Mais c'est maintenant, c'est après plus d'une décennie.
Vous êtes banquier, donc pour parler comme Oprah Winfrey,
présentatrice américaine. On est maintenant bankable, parce que voilà, ils se rendent compte que, en fait, ce qui change quand même la donne, et c'est mon discours récurrent sur l'entrepreneuriat, c'est que de toutes les manières, les gens sont obligés, les gens, ils m'aiment ou ils m'aiment pas, ils sont obligés de plus ou moins de suivre. parce que je lis et que ce que je dis, je le fais, et ce que je fais, je le dis. Du coup, voilà, c'est...
Il y a certainement beaucoup d'ennemis, mais il y a beaucoup d'amis aussi. On va donner la parole à une distributrice, parce qu'il y a la création, il y a la distribution, il y a le fait de financer la production. Karine Tano, vous avez ce magasin à Abidjan qui regroupe le meilleur de la création. Vous avez monté cet espace il y a plusieurs années. Oui. Au départ, la clientèle était quand même assez étroite. Comment vous avez vu évoluer les créateurs, leur déboucher aussi à l'extérieur du continent?
C'est vrai qu'au départ, la clientèle n'était pas du tout ivoirienne. Mmh. Vu la localisation à côté du nouveau hôtel, on avait une clientèle plutôt qui venait en fait de l'Afrique, c'est-à-dire le Burkina, enfin tout ce qui est autour de la Côte d'Ivoire. Mmh. C'est un hôtel de passage, donc on avait tous les clients de la CDAO, on avait beaucoup d'étrangers. Et en fait, je me suis beaucoup appuyée sur leurs remarques, sur leurs habitudes d'achat pour pouvoir évoluer. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé main dans la main avec toutes les marques pour contourner tous les freins, tous les problèmes liés à la production et permettre de faire des petits réastores, des collections, tous les mois.
Aujourd'hui, on parle bien toujours d'une production artisanale, semi-industrielle. Qu'est-ce qu'il faut dire?
Malheureusement, voilà. Alors justement, on est dans une... vous avez parlé tout à l'heure de banque, de financement. Je crois que c'est là le nœud. Mmh. Parce qu'on travaille toujours de manière artisanale. Donc, on s'est adapté, en fait. On a, comme je dis, on a contourné les freins qui sont liés à cette activité-là, de la distribution. Mais pour pouvoir exporter, parce que je pense que c'est le sujet de...
Mais quand même, dans un pays, il faut bien le rappeler à nos auditeurs, dans un pays, la Côte d'Ivoire, qui il y a 30 ans produisait des jeans et des chemises. Il y avait des usines textiles en Côte d'Ivoire.
Oui, à Gonfreville, vous aviez des usines qui produisaient des draps, des prêt-à-porter, bien sûr.
Qu'aujourd'hui, la création n'arrive pas à décoller en termes de production.
Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour ça.
Et même de financement aussi.
Tout à fait.
Oui, bien sûr. D'investisseurs.
Voilà. D'investisseurs. Et par les États et par les investisseurs privés.
Du coup, à quelles difficultés vous êtes confrontée? Comment vous vous adaptez, vous, en tant que distributrice, Karine
Alors,
Tano?
On est confronté à, premièrement, l'achat de la matière première, le sourcing. Soit on reste clanisé dans le pagne en coton que font les sociétés ici, soit on va vers des matières beaucoup plus fluides, qui sont plus adaptées au marché, à l'export. Mmh. Pour ça, il faut les acheter, il faut avoir du financement, il faut avoir de la trésorerie. Ensuite, il faut, pour pouvoir vendre...
Ça, c'est les problèmes des créateurs, c'est pas votre problème en tant que distributrice, à la limite. Mais vous, en tant que distributrice, en tant que commerçante, c'est quoi les problèmes des marchandises qui arrivent chez vous?
Le problème des marchandises qui arrivent chez moi, en fait, je distribue, mais je veux distribuer au-delà de la Côte d'Ivoire. Mmh. Et pour ça, en fait, il faut voir mon positionnement. Je suis aussi en collaboration avec les marques. C'est-à-dire que cette problématique, on la travaille ensemble pour pouvoir aller justement au-delà de nos frontières.
Mmh. Et au-delà de vos difficultés, comment vous infiltrez de l'agilité dans ce réassort de toute petite quantité où finalement on travaille un peu au doigt mouillé, non, quand même? Il n'y a pas de gros logiciel qui réorganise le réassort comme pour des énormes marques de multinationales.
Aussi, je travaille quand même avec un logiciel parce que j'ai une centaine de marques et j'ai des milliers de produits. Mmh. Donc, je suis obligée d'avoir des logiciels et des outils adaptés. Mmh. Mais en fait, ce que je veux dire, en fait, c'est que, vous savez, pour exporter, je trouve qu'on met la charrue avant les bœufs. Parce qu'on a fait des séminaires sur exporter aux États-Unis, sur la Goa, il faut profiter, etc. Ouais. Mais je trouve qu'on parle de choses dont on ne maîtrise pas, parce que nous, on veut exporter, mais on n'a pas, on n'est pas professionnalisé, on n'est pas encore...
Vous voulez dire au niveau de la production?
Au niveau de la production, parce que je distribue des produits qui doivent être aux normes. Mmh. Moi, j'essaie de les encadrer avec des précisions sur la matière, vous voyez, mais aujourd'hui, on a un problème, on produit du coton en Côte d'Ivoire. Mais on est obligé d'acheter des matières à l'étranger. Et les matières qu'on achète, par exemple, chez les Libanais, etc., on ne maîtrise pas la composition du tissu. Or, lorsqu'on veut produire et exporter à l'étranger, il faut pouvoir dire que cette robe est faite en Côte d'Ivoire ou est faite avec telle ou telle matière, parce que les marchés à l'international sont très exigeants.
Et les quoi, mais Adama c'est Paris, là, sur les freins au moment de la production, vous êtes d'accord avec ça, que les problèmes commencent dès la production?
Oui, bah oui, évidemment, il faut nier l'évidence. Si on parle pas de problème de mode, en tout cas pour les créateurs africains de production et de
produits. Vous en êtes où en termes de production, en termes de volume?
Bah moi, j'ai décidé, moi, en tant que créatrice, moi, parce que c'est ce que je fais avant de, c'est de rester sur les petites et moyennes quantités. Moi, de pas aller, j'ai
ça veut
la
dire
possibilité.
Quoi, petite et moyenne quantité. Bah,
ça
pour
veut
nous,
dire que,
les profanes.
Par exemple, non, ça veut dire que je peux pas produire 1000 pièces.
Bon, une robe, vous la sortez en combien?
On peut la sortir en 100-150 maintenant.
Et pourquoi ouais. ces choix, en fait?
Mais parce que sinon, je pourrais pas faire tout le reste de ce que je fais. Ouais. Et sinon, par exemple, quand on a eu les galeries Lafayette lors de la deuxième Black Fashion Week, ouais. qui sont venus, qui m'ont dit on veut commander, mais lequel
là,
chargé était...
Il vous demande en combien d'exemplaires un modèle?
Un modèle en peut-être 400-500 pièces minimum.
Qu'est-ce que vous répondez à ce moment-là? Est-ce que vous pouvez
moi,
dire
je, oui? Non, je réponds oui, pour, bien évidemment. Et après, je vais voir et on me dit que oui, il faut qu'on aille produire en Chine. Parce qu'en Afrique, il y a 4 ans, ou non, il y a 5 ans.
Pourquoi on ne peut pas produire 400-500 modèles sur le continent africain avec...
Ah non, je n'ai pas dit que ce n'était pas possible. Dans mon cas...
On peut aller au Maroc,
oui,
par exemple.
Non, bien évidemment, parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai été produire au Maroc et surtout, j'ai été apprendre. À le savoir-faire marocain. Non, mais
parce que là, on passe dans un dans
ah
une
non,
production
y a,
à la chaîne.
Y a, y a, on peut faire à Madagascar, on peut faire au Maroc, on peut faire en Éthiopie beaucoup, on peut faire même à Lagos maintenant.
Là, on parle bien de production industrielle où ça n'est pas un
non,
un,
c'est
un
industriel,
artiste, un ouvrier
même
qui fait
200,
un vêtement
300 pièces, c'est quand même
A à Z.
Industriel. Oui,
ça veut dire qu'on découpe les étapes.
Mais oui, c'est toujours des ouvriers, mais c'est découpé. On n'a plus un tailleur qui fait tout. On en a 12 à la chaîne, même dans nos ateliers.
Et quoi, vous voulez intervenir là-dessus?
Voilà, en fait, à partir du moment où on n'a pas de maîtrise sur la production même, c'est-à-dire, comme Adama disait, on a très peu de personnel dans les ateliers, on ne peut pas fournir en quantité. On est obligé de veiller à tout. Moi, je suis obligé de tout surveiller, de regarder les intérieurs, de faire les contrôles qualité, parce que ou bien de former quelqu'un, mais de toujours contrôler. Et tant que on n'a pas établi en quelque sorte des règles pour internationaliser en quelque sorte notre produit, ça va être très difficile de fournir en grande quantité. Aujourd'hui, en France, vous avez des ateliers qui peuvent livrer une veste en 1000 exemplaires. En Afrique,
fabriquer
comme Adama disait, fabriqué à Paris. Vous avez dans le reste de l'Europe des gens, mais aujourd'hui, en Afrique, là, si vous n'avez pas un gros portefeuille,
quand vous dites je n'ai pas assez de personnel, c'est parce que vous ne trouvez pas assez de jeunes formés à ces métiers, de jeunes formés même avec des savoirs de base, de géométrie, de calcul, parce que c'est quand même un savoir très technique, ou bien...
Alors, c'est là que pour moi vient un peu la difficulté. C'est vrai qu'on a beaucoup de talents, mais on a très peu d'engouement et de formation. Donc, moi, je n'ai pas, par exemple, de personne qui fait la gradation. Alors que dans un atelier, pour produire en quantité livrée Sargal ou Etika, il me faut absolument, ou Alara, par exemple, il me faut absolument quelqu'un qui s'occupe de la gradation.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, des jeunes qui auraient le niveau scolaire pour accéder à des savoirs techniques, ils ne vont pas aller vers ces métiers, ils vont aller vers des écoles pour devenir technicien supérieur pour autre chose, peut-être pour travailler dans le bâtiment, je ne sais pas. Et finalement, et ceux qui sont ailleurs ont été très peu à l'école. C'est ça le problème.
C'est notre culture, c'est dans notre culture de coudre un vêtement. On n'a pas eu besoin de se former pour coudre un vêtement ou pour couper un vêtement.
Alors, aujourd'hui... Sinon, les écoles de stylisme n'existeraient pas dans le monde. C'est vrai que c'est des métiers peut-être... Je dirais, il y a des gens qui sont nés avec, qui peuvent le faire, mais je pense que la formation, elle sera toujours nécessaire.
Amine Atatürk, justement, je voulais vous donner la parole. Bon, allez-y, Élie Kouamo. Je vous laisse terminer, mais il faut qu'on avance sur ce débat qui est passionnant. Allez-y, Élie.
Je disais donc que les personnes, la jeunesse ou bien les jeunes qui sont happés par l'art vont plutôt aller vers la créativité, parce qu'ils ont du talent. Mais il faut, par exemple, des personnes, je ne sais pas, peut-être comme je reviens chaque fois à Adama, parce que j'ai commencé aussi devant Adama, devant Maréchal, des personnes qui vont détecter qui est bon, ou bien des directrices d'école, de formation, qui est bon pour le patronage, qui est bon pour le repassage, qui est bon pour la gradation, pour diriger ces personnes-là vers ces différents métiers qui sont nécessaires dans un atelier de production. Et après, il faut absolument que nous ayons l'appui des banques, des gouvernements pour établir des ateliers ou des usines de production où les gens seront formés pour avoir un métier, ce qui n'est pas actuel, vous voyez.
On va revenir au problème des investisseurs. Aminata Tior, je voulais vous donner la parole parce que vous avez 32 ans, vous avez une formation d'ingénieur télécom.
Oui.
Et vous êtes arrivée à créer un site, non pas de mode, mais sur les cosmétiques et la beauté. Alors, oui. On est sur un secteur en pleine expansion qui intéresse pas seulement le continent africain, mais aussi les diasporas qui recherchent de plus en plus des produits cosmétiques adaptés à leur peau. Est-ce que vous feriez un parallèle aujourd'hui entre le monde de la cosmétique et les difficultés de création textile sur le continent africain?
Absolument, absolument. Et du coup, je rejoins justement Karine qui disait qu'avant de parler d'exportation, il faut parler de la production locale, les difficultés qu'on a de produire, d'assurer la production locale. Et ça, si je le transpose dans le domaine de la beauté, c'est pareil. Aujourd'hui, on a de très très belles marques qui existent en Afrique francophone en matière de cosmétiques, des produits pour les cheveux, des produits pour la peau. Mais déjà, produire en quantité, c'est une difficulté. Déjà, avoir de beaux packaging pour mettre en évidence ces produits, c'est hyper compliqué. Et puis, il y a la main d'œuvre, les ressources humaines qui sont hyper compliquées sur place. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui doit être résolu avant de parler d'exportation. Et plus globalement, il faudrait qu'il y ait une sorte d'industrie dans les deux secteurs. Que ce soit ça, la mode ou la beauté, il faudrait qu'il y ait... Enfin, je veux dire,
et qu'ils puissent se répondre et s'épauler l'une l'autre aussi.
Oui, clairement, c'est assez lié. Mais je veux dire que juste la création du produit ne suffit pas. Il faut des médias pour porter ses créateurs. Il faut des photographes pour mettre en avant le truc. Il faut des investisseurs qui injectent des sous dans ce secteur.
Et des lieux de distribution aussi quand on a envie d'acheter.
Exactement. Hein. Il faut des écoles de formation aussi pour des laborantes.
Marie-Jeanne Sarbin-Thomas, dans votre magazine, on parle évidemment aussi beaucoup de beauté, d'entretien des cheveux, d'entretien de la peau. Quelle similarité, quelle différence avec la création de vêtements sur le continent africain?
Alors, c'est exactement la même chose. Demain, à Paris, il y aura, dans un showroom financé par le Nigeria, une dizaine de créateurs nigériens qui, pendant 4 jours, vont montrer leur collection. Ça veut dire que le gouvernement du Nigeria a mis des finances pour aider ses créateurs, parce qu'ils savent 2 choses. Que le succès de ses créateurs à Paris va changer un petit peu l'image de marque du Nigeria. Et ça va également développer un marché potentiel, peut-être, pour les créateurs nigériens. Malheureusement, sur le continent africain, et surtout sur l'Afrique francophone, nous n'avons absolument pas de structure de formation, de réflexion. Je dis toujours, 1 kilo de beurre de mangue, ou de beurre de karité vaut beaucoup plus que, si vous voulez, le karité en tant que tel qu'on utilise tous les jours. Il n'y a pas de transformation.
On est encore sur un marché de matières premières.
Voilà, on est encore sur un marché de matières premières sans valorisation, sans véritablement de transformation.
Tout comme le coton, finalement.
Exactement comme le coton. Donc, il n'y a pas de prise de conscience. C'est-à-dire que nous, gouvernants, regardent ça. Aujourd'hui, Adama, parce qu'elle l'a beaucoup ouvert, parce qu'elle a pris des positions, parce qu'elle a parlé, on la respecte et les gens, à la limite, la reçoivent parce qu'ils ont peur d'elle. N'est-ce pas, Adama
à Paris, justement. Alors vous, la Black Fashion Week à Paris, est-ce qu'il y a le gouvernement sénégalais qui soutient, par exemple, l'initiative, ou vous êtes trop multi-africaine pour ça, ou...
Pour ça, ils devraient déjà supporter Dakar Fashion Week, qui est chez eux et qui est la capitale. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas à Paris qu'ils vont venir m'aider.
Donc c'est ça véritablement, il n'y a pas de prise de conscience de ces marchés qui sont annexes mais qui sont très 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 porteurs. Vous savez ce que rapporte la haute couture en France, vous savez ce que rapporte la cosmétique en France, les leaders mondiaux ce sont des Français, le groupe L'Oréal est leader mondial de la cosmétique, donc vous avez des gens comme Kering qui sont des grosses sociétés, deuxième leader mondial de la cosmétique et de la couture, donc il y a énormément de choses
qui se passent malheureusement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'aujourd'hui il y ait des investisseurs, qu'il y ait des politiques qui se préoccupent de ce secteur-là sur le continent africain? Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord que les créateurs fassent leurs preuves et montrent qu'il y a des initiatives qui sont réellement bankable, qu'il y ait une multiplicité
c'est
de...
C'est ce que je suis en train de faire. Et c'est, non, mais, pas que moi. Il y a plein de gens qui le font. C'est juste qu'il y a certains gouvernements qui suivent, mais il y a Lagos, ils le font. Ils existent depuis Ghana, ils le font depuis sept ans seulement. Ils sont là, mais leurs gouvernements ont pris conscience. Et les anglophones nous ont dépassés, surpassés depuis des siècles. Je veux dire, nous, les francophones, on a un réel problème de voir la mode ou le secteur de l'art, de la création, comme quelque chose qui peut rapporter de l'argent. C'est toujours dans nos têtes un hobby ou un passe-temps. Et du coup, nos présidents sont complètement largués et ne comprennent pas que c'est un secteur qui fait des milliards.
Vous nous appelez, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Comment exporter les modes africaines, les créativités africaines? On parle de vêtements, mais on parle aussi, pourquoi pas, de cosmétiques. 33 1 84 22 71 71. On écoute un message WhatsApp posté par un voisin, justement, qui est au Ghana. Et puis ensuite, Angie Bling. Et on se retrouve, bien sûr, sur le studio en direct de 7 milliards de voisins.
Bonjour les voisins, les voisines. Je suis Raoul Kounaké, suis un styliste togolais résident à Accra. L'idée que je suggère, c'est de ne plus créer pour l'Afrique, de chercher à créer pour le monde, parce qu'aujourd'hui, tout s'évolue. On peut toutefois habiller l'Occident facilement. Et les modes africaines méritent d'être exportées, parce que nous travaillons avec des différents tissus aujourd'hui en Afrique.
Oui, oui, sister, ce soir, oui, c'est cadeau. Oui, oui, sister, aujourd'hui, tu ailles, oh. Commande tout ce que tu bois, champipi ou magnum. Les choses marchent pour toi, remercie là-haut. Donc voici la piste, donne-nous des petits pas. Ce soir, oui, c'est cadeau, quand même, tu n'y crois pas. Donc célèbre ton succès, le mariage, c'est bientôt. Dis c'est le travail, remercie là-haut. Ouais, trop d'allo sista. Mais je vois bébé idioté. If you know sista, sonne pas bébé idioté. Please allo sista, sonne ça bébé idioté. Allo sista, ce soir bébé idioté. Shine, baby, give it to you, baby. Shine. Même qui sait, c'est pas la vie. Son premier a critiqué. Pourtant, elle n'a rien fait. Donc, voici la piste. Donne-nous des petits pas. Ce soir, oui, c'est cadeau. Quand même, tu n'y crois pas. Donc, célèbre ton succès. Le mariage, c'est bientôt. Lundi, c'est le travail. Remercie là-haut. Ouais, trop d'allo, sista. Mais je vois bébé idioté. If you know, sister. Sorry, baby, baby, chill. Please, allo, sister. Sorry, baby, baby, chill. Allo, sister. Ce soir, baby, chill.
Shine, Angie Bling, chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI avec de hauts représentants de la création sur le continent africain. Comment exporter les modes africaines? Adama Paris est en direct avec nous à la veille du démarrage de la Black Fashion Week à Paris. Marie-Jeanne Serbin-Thomas du magazine Brune. Aminata Thior pour le site consacré aux cosmétiques et à la beauté Cetalma. Et Karine Tano, distributrice du meilleur de la création.
à Abidjan et également en appui, en consulting aussi auprès des créateurs. Alors on se pose la question des processus de fabrication, pourquoi on n'arrive pas à produire à plus grande échelle, le soutien des politiques publiques, le soutien des investisseurs également, les problématiques de tissu, de ce qu'on appelle le sourcing, hein, c'est la recherche du textile. Ça, c'est vrai qu'on en a dit juste un mot, mais c'est quand même un problème aujourd'hui qui est extrêmement important, Adama Paris, parce que si on veut produire avec des matières africaines, est-ce qu'on se retrouve pas aussi
limité
en termes de texture, en termes de volume aussi, non?
Oui, enfin, c'est, je pense pas qu'on soit limité par la texture ou la
mais il y a pas le même choix qu'en Asie quand même.
Oui, certainement, mais en fait l'Asie a dû comme toutes les pays ou les continents qui ont fait de la mode s'imposer et imposer leur mode finalement. Oui. Ça s'impose, je veux dire on met un pull, c'est la texture est pas forcément ce qui convient pour nous et pourquoi nous on pouvait pas imposer notre texture. Le pagne existe en différentes textures quand on va au Tchad ou en Éthiopie, c'est très léger. Chez nous, c'est un peu plus rugueux ou un peu plus lourd. En Burkina, donc il y a toutes ces textures. C'est le problème de fond reste toujours la même chose, comme disait Marie-Jeanne. Il faut que nos gouvernements, que nos investisseurs, que nos hommes d'affaires prennent le pas de ce nouveau challenge de l'Afrique, de sa créativité. Et que c'est dans l'investissement, c'est dans injecter de l'argent dans les industries créatives qu'on pourra effectivement avancer. Mais en avançant, en donnant de l'argent ce qu'il faut pour prendre des pages de pub dans Brune, oui. Avancer en prenant des spots de pub dans des télés et avancer comme toutes les industries créatives avancent, ça veut dire avec du marketing, avec de la publicité. Il nous manque tout ça. Du coup, on lance toujours la pierre aux créateurs, aux médias, mais ils ne montent pas assez. Mais comment vous voulez qu'elle monte assez quand elle n'a pas de quoi imprimer son magazine parce qu'il n'y a aucune marque qui veut prendre la pub au prix réel de la pub. Donc c'est tout ce phénomène et on devrait, et je pense que les industries créatives en Europe, en Asie, ont été la base, en tout cas, par de l'investissement. C'est l'argent, le nerf de la guerre.
Est-ce qu'il y a des... Oui, Aminata Thiaw. Il faudrait de l'éducation, justement, à faire pour ces gouvernants, en fait. Aujourd'hui, on ne démontre plus la créativité. Enfin, il y a le nom Adama Paris. Mm-hmm. Peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait faire des événements pour éduquer le pouvoir public, pour leur donner les chiffres, pour montrer...
Vous invitez des hommes politiques
dans les défilés.
Les premières dames, vous essayez de les habiller quand même.
Enfin, moi, je suis plus...
Justement, eux, ils devraient être les ambassadeurs de cette mode africaine, que ce soit les chefs d'État, les ambassadeurs...
Les personnels politiques, les premières dames. Vous arrivez à les habiller ou pas, Adama Paris?
Je vais être...
Allez, parlons cash.
Au début, je les invitais. Après, ça ne servait à rien. Parce qu'ils faisaient retarder le défilé, ils venaient une heure en retard et on devait attendre. Et puis, il fallait des fauteuils pour eux et pas des chaises. En Afrique, c'est complètement fou. Et donc, du coup, c'est peut-être même pas eux qui voulaient, mais le protocole... Enfin, moi, personnellement, j'invite plus les politiques parce que en fait, comme ils nous accompagnent pas, c'est aucun... Pour moi, c'est une perte de temps en tant que businesswoman parce que j'ai un événement à organiser. C'est une perte de temps. Mais par contre, on écrit toujours. Moi, on a une grosse team. On écrit. Des fois, ils aident. Des fois, ils aident pas. Mais ils sont plus au centre de nos préoccupations. Moi, je crois en l'entrepreneuriat personnel. Je crois pas au phénomène gouvernemental, mais j'entends bien que certainement il faudrait faire quelque chose pour qu'il se réveille.
Oui. Mais Marie-Jeanne Sarmat-Thomas, je citais le cas du Nigeria qui pousse par exemple 10 créateurs à venir exposer sur un micro-événement finalement à Paris, mais que pour le Nigeria ça a du sens de pousser des créateurs à venir exposer à Paris. Le Nigeria, l'Éthiopie par exemple, l'Éthiopie, il y a des usines qui ne produisent pas d'ailleurs forcément de la création éthiopienne, hein, mais qui deviennent maintenant les usines les moins cher du monde pour produire et se substituer d'ailleurs aux usines chinoises. Mais est-ce que dans ces modèles-là, il y a quelque chose d'intéressant pour vous les francophones ou pas?
Moi, déjà, je vais parler de ce qu'on veut faire parce que Sargal, en fait, était l'idée, le concept de Sargal, c'était l'idée de avant le concept store, c'était ouvrir une usine à Dakar, à Diamniadio. C'était ça le gros projet de Sargal, mais on n'a pas pu, on vous demandait juste un terrain. Au président.
Il y a encore de la pièce là.
Ah, oui, Diamniadio, on donne à tout fou, et n'importe, hein, n'importe qui, mais je ne sais pas pourquoi.
Avec votre notoriété, ça n'a pas été possible d'avoir un terrain.
Ça fait partie
mais je pense que aussi en Afrique, il y a un gros problème de copinage. qui n'arrête pas et qui ne s'arrête pas. Et puis comme moi, je ne sais pas...
C'est-à-dire qu'attendez, Adama Paris, qui veut bénéficier d'un terrain dans une ville nouvelle, en pleine construction, avec pour l'instant que des terrains vagues, beaucoup en tout cas, et qui veut monter un atelier de production, vous n'y parvenez pas avec votre notoriété?
Je vais y parvenir, mais comme dans tout ce que je fais, certainement par un autre biais et pas par eux. Donc là, j'ai vu une entreprise, qui est l'entreprise de mon oncle, qui va me donner 1000 mètres carrés en attendant, parce que lui, il en a eu beaucoup. Mais le problème qu'on a, c'est que je ne suis pas dans le circuit de demander, d'aller, j'ai pas cette éducation d'aller faire un peu de la lèche. Et c'est un peu ce qu'il faut.
Je crois que véritablement, le problème, c'est que tous ces pouvoirs politiques, économiques, africains ont une image négative d'abord des femmes et deuxièmement des créateurs, dans la mesure où pendant très longtemps sur le continent les jeunes qui faisaient de la mode, de la coiffure ou de la mécanique étaient les laissés pour compte du système éducatif. Vous ne travaillez pas bien en Afrique à l'école, ou alors vos parents n'avaient pas les moyens, qu'est-ce qu'on vous faisait? On vous mettait apprenti à vie chez une couturière. Vous n'étiez pas bon en maths, on vous mettait apprenti. Donc ça veut dire qu'en fait personne aujourd'hui ne va se dire « je vais investir sur des gens qui ne sont pas éduqués, qui ne vont pas rapporter » parce qu'ils ne voient pas le business. Quand Adama, elle a travaillé aux États-Unis, elle était dans le système bancaire. Donc, c'est une pointure différente. Mais il faut voir aussi que le problème de la formation est lié à ça. Vous n'avez pas d'école de formation depuis des années qu'on en parle. Ça, c'est un cheval de bataille de Brune. On en a parlé très souvent de la précarité de la mode liée justement à cette absence de formation. Croire que la créativité suffit, c'est faux. Il faut avoir... C'est se leurrer.
Et Eli Kouaf, justement, vous avez travaillé un an en Chine, me semble-t-il.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez appris en Chine, vous, créateur ivoirien?
Ben, j'ai eu la chance d'aller travailler en Chine pour un groupe saoudien. Et en fait, il fallait créer des collections et puis les voir multipliées pour le marché du Moyen-Orient. Donc en fait, j'ai appris sur place comment gérer la production de collections, c'est-à-dire qu'on produit, j'avais 7 usines en gérance, j'avais un atelier avec 45 personnes à créer des collections, des modèles tous les jours, et donc ça m'a permis, si vous voulez, de maîtriser, en plus de la formation que j'avais déjà eue à Paris chez Clarisse Yerex, et puis pendant 4 ans à être formée sur les banques, ça m'a permis de maîtriser mon produit, c'est-à-dire de savoir comment changer les mesures de ma robe sur un podium comme la Black Fashion Week ou bien comme les Gold Fashion Week, pour le rendre portable dans la boutique, dans une des boutiques où on est vendu. Et c'est nécessaire, je rejoins Adama et Marie-Jeanne, quand elles disent qu'il est primordial que nos gouvernements investissent dans des formations, dans des écoles, qui sont liés au secteur textile, mode et design. Tout simplement parce qu'en regardant les chiffres, on se rend compte que la mode ou le vestimentaire ne tarit jamais. Les gens ont toujours besoin de s'habiller. Les gens, ici, en Afrique, c'est la culture d'être beau, d'être belle. Donc je ne comprends pas que jusqu'à présent, il n'y ait pas il y a des écoles de couture à Abidjan. Mais il n'y a pas cet engouement pour encourager...
On a bien compris, Eli Kouam, on a bien compris votre propos, je crois que c'est vraiment très clair. Je voudrais qu'on arrive quand même sur une dernière question avant de se quitter, on arrive bientôt au terme de cette émission. L'industrie du vêtement, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde, après le bâtiment, travaux publics. Est-ce que l'Afrique n'aurait pas une carte à jouer sur un modèle plus durable? Eli Kouam, si je ne me trompe pas, vous faites toujours plus ou moins une collection par an, quand on a des marques, des multinationales qui pondent à un rythme effréné plusieurs collections par an, voire par saison. Est-ce que l'Afrique pourrait pas sauter l'étape là de toutes les difficultés dont on vient de parler et proposer, je pense notamment aux cosmétiques avec des produits naturels extraordinaires pour la peau, proposer un nouveau modèle de cosmétiques, de création vestimentaire? Marie-Jeanne Sermin-Thomas, vous qui baignez là-dedans, comment vous sentez évoluer les choses?
Alors c'est très ambigu, parce que quand vous prenez le coton est certainement le textile le plus polluant au monde, dans la mesure où ça demande énormément de matériel, ça demande beaucoup d'eau, Il faut à chaque fois, pour les paysans, c'est un drame, mais ça, c'est la réalité. L'industrie textile est une industrie qui est polluante. Moi, je pense que c'est plutôt au niveau de l'industrie traditionnelle et aussi au niveau de la slow fashion, c'est-à-dire proposer aux gens peut-être moins de produits, des produits de meilleure qualité, plutôt que de les refaire de la fast fashion
c'est
à la Zara.
C'est ce que pourrait proposer l'Afrique comme nouveau modèle,
voilà,
une forme de slow fashion.
Tout à fait. Et je pense que c'est là où il y aurait quelque chose à faire.
Adam à Paris.
Oui, c'est le parti que j'ai pris, et puis que beaucoup de créateurs prennent, même malgré eux, de ne pas produire énormément et de produire très peu et de valoriser soit nos tissus, soit nos savoir-faire.
Et de dire aux consommatrices, c'est plus cher, mais vous achetez moins. C'est ça aussi.
Non, mais vous achetez éthique.
Bien sûr.
Karine Tano, vous êtes d'accord? Oui, on va parler des cosmètiques. Karine Tano.
Non, je ne partage pas du tout cet avis-là. En fait, c'est une question de marché, c'est une question de choix. Nous, en fait, chez Etika, on a choisi de faire du prêt-à-porter. Et donc, au niveau du... Qui dit prêt-à-porter, dit volume. Et si on veut aller sur des marchés à l'international et qu'on veut concurrencer les marques qui sont en Europe, mais je veux dire les marques qui ont un positionnement de prix raisonnable, c'est-à-dire pas trop cher ni trop bas, bah, on est obligé forcément de faire de la quantité et un prix, avec un prix adapté. Donc, nous, notre souci... C'est le prix. On a essayé, on a fait des tentatives au niveau de l'exportation.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais qu'on donne la parole à une voisine qui nous appelle au 33 84 22 71 71. Elle vient de nous téléphoner. Bonjour Déborah.
Bonjour à tous. Bonjour.
Vous avez la parole. Vous avez 24 ans et vous êtes créatrice.
C'est ça, de la marque de la maison de couture afro-péenne Maison Essie.
Ouais.
Et j'appelle en fait justement en réponse à un commentaire qui a été laissé par Raoul, le styliste togolais au Ghana, qui expliquait qu'il fallait justement que nos ateliers africains produisent pour le monde, sortent finalement de la, du sentier de la population locale pour vendre leurs créations. À l'inverse, moi je voudrais proposer de donner le goût aux populations locales des créations haute couture proposées par Adam à Paris, par Elie Kouamé, qui font des produits de haute qualité qui pour moi s'apparentent à de la haute couture. On a une véritable classe moyenne en Afrique qui se développe, qui a des goûts de luxe et qui veut consommer de qualité.
Et qui pour l'instant veut consommer du luxe à l'international plutôt, c'est ça?
À l'international.
C'est ce que vous déplorez.
Exactement, mais finalement, on a des ateliers capables de produire ces tenues de haute couture qu'ils achètent à des milliers d'euros à l'étranger, qu'ils pourraient très bien trouver en local.
Ouais, moins, aussi bien fait, plus original et peut-être un peu moins coûteux. Merci de nous avoir appelé, Déborah. sur les cosmétiques, Aminata Thior, sur le modèle durable.
Bah, du coup, côté cosmétique, je pense que le sujet a été très rapidement traité dans le sens où les marques de cosmétiques proposent du 100% naturel. Et ça correspond mais parfaitement à ce que veut la cible. Aujourd'hui, on a une cible ou une clientèle africaine qui est très exigeante, qui veut du naturel, du 100% naturel, ou à la limite du green. Et sur la composition des éléments, des produits, il faut qu'il y ait une certaine transparence. Donc côté cosmétique, je pense que ce côté green ou ce côté pollution a été vite évacué. La tendance aujourd'hui sur le marché africain en termes de matière de produits cosmétiques, c'est le bio ou c'est les produits naturels.
Oui, sur une toute petite cible, hein, quand même, rappelons-le.
C'est minuscule. Plus de 50% des produits vendus en Afrique sont des produits
dépigmentants.
Dépigmentants, et je ne pense pas qu'ils ne soient pas bio.
Par contre, j'insiste sur le fait qu'il y a une classe moyenne qui est en vogue, il y a une clientèle plus exigeante qui veut se débarrasser de ces produits moins visibles que celles qui utilisent les produits d'équipementant, mais elles sont là, cette clientèle exigeante qui veut du naturel.
Les tissages, c'est pas très bio quand même.
On est d'accord. Côté capillaire. N'empêche,
pour faire une émission uniquement sur les cosmétiques. Merci à vous tous. C'était le mot de la fin. Merci à vous, Adam à Paris. La Black Fashion Week à Paris, ça commence demain jusqu'à samedi prochain au cirque Bormann. 1000 places, 15e arrondissement de Paris. Il reste des places ou pas?
Oui, sur Eventbrite.
Black Fashion Week à Paris. Merci Marie-Jeanne Serbin-Thomas du magazine Brune, Aminata Thior du site Cetalma, Karine Tano de la plateforme Etika, et merci à vous Elie Kouam, et merci à toute l'équipe. Demain on parlera du travail qui envahit nos vies, et bien sûr vous aurez la parole.